Bonjour à tous, bienvenue à Rocamadour pour notre rendez-vous quotidien avec l'un des musiciens programmés au cours de ce festival 2023. J'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec le claveciniste et organiste Sébastien Dossé, directeur artistique de l'ensemble Correspondance, qu'il a fondé en 2009 et avec lequel il se produit ce soir à 21h en la basilique Saint-Sauveur, un concert largement dédié à Dietrich Buxtehude et notamment à son œuvre Membra Jesu Nostri. Bonjour Sébastien Dossé et merci d'avoir accepté mon invitation à vous exprimer sur les ondes de Radio Présence.
Bonjour, et avec plaisir.
Il y a plusieurs premières cette année au Festival de Rocamadour, je crois que c'en est une pour l'ensemble Correspondance. Est-ce que c'est aussi votre cas à titre personnel et une découverte du lieu pour vous?
Alors, pas tout à fait, parce que j'ai eu la chance de venir à Rocamadour quand j'étais très jeune, parce qu'avec mes parents, on passait nos étés en France à faire de la randonnée et à traverser toutes les régions de France. Et forcément, parce qu'on choisissait bien, à un moment, on est tombé sur Rocamadour. Et donc, je me souviens très bien de ce lieu. Je me souviens très bien de la sensation dans ce lieu. Donc, voilà, c'était il y a très longtemps, probablement presque 30 ans. Mais j'ai un souvenir relativement net du lieu. Donc, je suis très heureux, effectivement, de pouvoir venir y jouer de la musique, parce que maintenant, entre-temps, c'est devenu mon métier. Et puis, que ce soit une première pour Correspondance, effectivement, parce que c'est un beau festival et qu'on est très heureux d'y faire nos débuts.
Comme je l'ai indiqué d'emblée, vous avez fondé l'ensemble Correspondance en 2009. Nous allons parler dans quelques instants des musiciens qui le composent et du répertoire que vous défendez. Je voudrais d'abord revenir avec vous sur le nom que vous avez donné à votre formation. Je crois savoir qu'il est inspiré du fameux poème de Baudelaire intitulé Correspondance, des correspondances entre le monde sensible, matériel et le monde spirituel que voyait le poète. Pour vous, de quelle correspondance s'agit-il?
C'est justement ce qui me plaisait dans ce nom-là, c'était que ça faisait pas référence à quelque chose qui a existé au XVIIe siècle ou à quelque chose de trop anecdotique. C'était davantage comme on pourrait dire un manifeste dans lequel on se reconnaît nous en tant qu'artistes aujourd'hui au XXIe siècle. Et ce qui me plaisait particulièrement dans cette poésie-là, c'est justement l'idée que les arts se répondent. Donc certes, on est musicien, mais ben, maintenant, en 13 ans d'existence, on a fait beaucoup de projets qui ont mobilisé d'autres arts, à commencer par le théâtre, bien sûr, mais pas seulement. Donc c'est une manière d'emmener les gens dans une expérience qui n'est pas simplement auditive. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la seconde chose, c'est effectivement quand on joue, alors surtout nous, à fortiori de la musique sacrée, quelle que soit notre situation, notre position personnelle par rapport à l'une ou l'autre religion, je pense qu'on se pose toujours la question de quoi cette musique est le résonateur. Donc moi, ce qui me plaisait dans cette poésie de Baudelaire, c'est qu'elle fait appel à l'idée que voilà, les artistes sont comme des passeurs entre un monde des idées, un monde supérieur, quelque part, quel qu'il soit, et la vie terrestre. Et moi, je trouve que c'est une belle idée. Je me reconnais. C'est pas que je me reconnais dans cette idée-là, c'est que je la prends un petit peu comme guide dans tout mon parcours.
Vous avez évoqué les correspondances entre la musique et d'autres formes d'art. Ça s'est concrétisé pour vous par des projets bien précis. Est-ce qu'il y en a certains qui ont été particulièrement marquants pour vous?
Très certainement le Ballet Royal de la Nuit, parce que ça a été un immense projet pour moi. Mais je dirais que quand même, tous ces projets qu'on a réussi à mener depuis maintenant toutes ces années, quelque part, ils ont tous une sorte de. C'est comme de l'essence, ou c'est comme un alcool dans un alambic, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un flux de projets incessant et qui ferait qu'on passerait de l'un à l'autre avec indolence. Chaque projet, il me demande tellement de temps de préparation, tellement de gestation, on pourrait dire, que ben voilà, tous ces projets, finalement, ils sont relativement rares, parce qu'on a vraiment des projets scéniques qui mobilisent d'autres arts que la musique. Allez, il y en a un tous les ans, tous les 2 ans. Et donc voilà, ils ont tous marqué l'histoire de l'ensemble et l'histoire des musiciens qui le composent.
Pour faire des projets et constituer un ensemble, il faut des musiciens. Desquels vous êtes-vous entouré pour former l'ensemble Correspondance?
Ben à l'origine, c'est très naturel. Je veux dire, c'est les gens qui étaient avec moi au conservatoire à Lyon, parce que c'est les gens avec qui j'étais quotidiennement, les gens avec qui j'ai découvert la musique, avec qui j'ai passé mes examens, on pourrait dire. Donc, on a vécu pas mal de choses ensemble avant même d'avoir commencé à se lancer dans cette aventure de l'ensemble. Donc, c'était l'évidence. Et puis voilà, en 13 ans, forcément, ben, certains se sont éloignés. Alors moi, je suis content parce que quand même, beaucoup sont toujours là. Et ça me fait, je dois dire, ça me fait très plaisir. Et puis, on a eu des projets au tout départ qui mobilisaient un petit effectif d'une douzaine, quinzaine de musiciens. Et puis aujourd'hui, on a parfois des projets qui vont mobiliser 60 musiciens. Donc, nécessairement, ça nous permet d'accueillir aussi des nouveaux. Ça nous permet de toujours rester connectés et un peu vivifiés par de la nouveauté. Voilà ce qui est important aussi, parce qu'il ne faut pas qu'une équipe de départ constitue un unique vase clos dans lequel on s'enferme. Donc bon, voilà, j'aime bien cette cohabitation heureuse entre, on pourrait dire, aller des vétérans, parce que depuis 13 ans, ils me supportent, et puis voilà, toujours des têtes nouvelles, de gens qui viennent parce qu'ils sont passionnés par ces répertoires-là, pour certains parce que maintenant, on travaille avec des très jeunes vintenaires de temps en temps, et donc on a l'impression d'être des kakoshims avec qui cette jeunesse a découvert la musique, donc c'est amusant de voir aussi tout ça, parce que c'était notre cas aussi il y a 10 ans.
Le répertoire maintenant abordé et défendu par l'ensemble correspondance. Alors moi, pour ce que j'en connais, je vais dire que c'est du répertoire baroque bien sûr, mais français au départ, finalement assez large, qui s'est élargi avec le temps. Mais il y a peut-être tout de même une figure tutélaire, c'est Marc-Antoine Charpentier, un compositeur qui vous est très cher.
Oui, parce que c'est le premier compositeur sur lequel on a travaillé avec l'ensemble. C'est à partir de sa musique qu'on s'est mis à travailler des jours et des jours et des jours et des jours, sans objectif de concert, sans objectif d'enregistrement. C'était au départ pour simplement travailler ensemble et partager, moi, ma passion que j'avais de cette musique avec mes collègues. Et puis, c'est à partir de lui qu'on a fabriqué notre identité sonore. Donc, ça a été une figure évidemment très, très importante, mais c'est aussi un compositeur qu'on continue chaque année de jouer, parce que je trouve que c'est une personnalité probablement une des plus fascinantes de l'histoire de la musique occidentale. Et donc voilà, je suis toujours émerveillé quand je me remets au travail sur une nouvelle pièce que je connaissais pas. Donc c'est un compositeur qui continue de nous accompagner. Donc c'est comme une sorte d'ange gardien qui nous suit.
Il y a un autre, je pense, qui a été important, qui est moins connu du grand public, c'est Michel Richard de Lalande.
Oui, ben Lalande est un des grands musiciens de Louis XIV. Il a été, ça a été l'une des carrières les plus impressionnantes et les plus brillantes, là aussi, de l'histoire de la musique, pas seulement du XVIIe siècle. On parle beaucoup de Lully, qui a cumulé tous les honneurs, qui a eu une carrière impressionnante parce qu'il aimait l'argent, la gloire, etc. Lalande a eu une carrière finalement plus impressionnante, mais c'est une personnalité probablement plus réservée, plus discrète, qui était dans une forme aussi d'affinité personnelle avec Louis XIV. Donc je trouve que c'est une personnalité très attachante, et puis sa musique est une splendeur. C'est vraiment de la musique de premier plan qu'on connaît beaucoup moins que celle de Lully, qu'on a eu, nous, la chance de défendre au disque il y a maintenant quelques années, et qu'on continuera à jouer parce que c'est une personnalité vraiment à découvrir pour le grand public.
Est-ce qu'il y a d'autres compositeurs baroques français, donc de cette même période, qui ont beaucoup compté pour vous et que vous avez défendu, notamment au disque?
Oui, je pense que Étienne Moulinier et Antoine Boesset, quand on le dit comme ça dans une émission de radio, même à un public de mélomanes, ça peut faire sourire, parce que ce sont deux noms qui n'ont pas passé la postérité. Aujourd'hui, on connaît Mozart et Beethoven. En réalité, le travail des interprètes que nous sommes, nous, aujourd'hui, c'est de partager avec le public des pages de musique dont on admire la beauté et dont on est sûr. C'est pas simplement pour partager quelque chose d'anecdotique qu'on sort d'un tiroir et qui aurait la vocation à y retourner. Je pense qu'on fait tous ce métier-là en se disant, si je tombe à la bibliothèque sur un auteur que je ne connais pas, sur une partition que je ne connais pas, mais qu'en la lisant, je trouve que c'est vraiment exceptionnel, alors je vais me donner les moyens pour pouvoir la jouer, peut-être même l'enregistrer, mais surtout pour pouvoir la partager avec le public. Quelque part, les musiciens, quand ils font ce travail-là, sont comme des éditeurs, c'est-à-dire un éditeur, il reçoit 120 manuscrits par jour, il les lit, et il en jette 99,9%, et celui qui choisit, c'est un auteur que personne ne connaît, dont lui est sûr, dont lui pense que vraiment c'est quelqu'un de valeur et qui se propose de partager avec son public. Alors je crois que quand les musiciens font ce travail de recherche de répertoire, c'est exactement le même métier et la même relation qu'on a avec le public.
On a bien entendu ici toute la passion que vous nourrissez pour le baroque français, mais le concert de ce soir à la Basilique Saint-Sauveur est dédié, lui, au baroque allemand, et notamment à Dietrich Buxtehude et son cycle de cantates « Membra Jesu Nostri ». Je propose qu'on en écoute un premier extrait dans cette émission, « Ad pedes ecce super », la première des 7 cantates, dans la version enregistrée par l'ensemble Correspondance, parue en 2021 sous le label Harmonia Mundi.
Thank you.
Pédès Ecce Super, la première des sept cantates du cycle Membra Jesu Nostri, composée par Dietrich Buxtehude, un extrait du CD enregistré par l'ensemble Correspondance en 2021 sous le label Harmonia Mundi. Et donc ce soir, à 21h, en la Basilique Saint-Sauveur, vous donnez un concert intitulé justement Membra Jesu Nostri. Le cycle de cantates de Buxtehude étant au centre du programme, je vais vous demander de nous présenter cette œuvre, bien sûr, mais tout d'abord, Buxtehude lui-même, dont il faut rappeler à quel point c'est un compositeur important dans la période baroque allemande.
Oui, bah Buxtehude, c'était un immense musicien qui était le maître de chapelle de Sainte-Marie de Lübeck, donc au nord de l'Allemagne, et ça a été un esprit extrêmement créatif en son temps, tant et si bien que Jean-Sébastien Bach, le jeune Jean-Sébastien Bach, a traversé l'Allemagne à pied pour avoir l'honneur d'entendre le grand maître Buxtehude improviser sur son orgue. Donc c'est dire l'importance de ce compositeur-là pour la génération des compositeurs du XVIIe. Alors Buxtehude, dans le nord de l'Allemagne, en fait, tous les compositeurs allemands avaient des connexions avec la Suède, avec le Danemark. Il y avait une sorte de circulation comme ça autour de la mer Baltique qui fait que à un certain moment, le maître de chapelle de Stockholm a commandé à Buxtehude une œuvre particulière pour le roi de Suède. Et Buxtehude a composé non seulement pour le roi de Suède, mais pour ce bibliothécaire dont il était l'un des grands amis. Et cette œuvre, c'est les Membra Jesu Nostri. Donc c'est une œuvre assez atypique pour son siècle, parce qu'elle part d'un poème qui vient du Moyen Âge, d'Arnulf de Louvain, et qui est comme une méditation mystique sur toutes les plaies du Christ quelques heures avant sa mort. Donc ça peut sembler triste, voire un petit peu glauque quand on le présente comme ça. La réalité, c'est que c'est une sorte de méditation extrêmement profonde et joyeuse, et que cette musique, elle est comme une contemplation très fervente devant ce spectacle. Et ce qu'en a fait Buxtehude, c'est exactement ça. C'est une musique qui a plein de solos, plein de chœurs très lumineux. Elle est très démonstrative, sans forcément chercher les effets de théâtre, parce que ça reste une œuvre très intérieure. Mais je crois que quand on ne connaît pas Buxtehude et que, on est à la recherche d'une expérience particulière, surtout dans un lieu comme Rocamadour, je crois que c'est vraiment une œuvre parfaite. C'est pour ça que je l'avais proposée, au festival, parce que je pense qu'il y a une corrélation très forte entre cette musique et le lieu dans lequel on va la jouer. Donc, voilà, ça me réjouit beaucoup aussi pour ça.
Est-ce que c'est une œuvre difficile à interpréter?
La difficulté, c'est quelque chose de relatif. C'est-à-dire que c'est une œuvre que peuvent chanter des chœurs amateurs sans problème, parce que il n'y a pas de technicité très compliquée pour les chanteurs, par exemple. En revanche, la difficulté, elle vient dans tout le soin qu'on met dans le détail, dans la qualité des ornementations, tout ce travail extrêmement détaillé, bien sûr, que seuls des musiciens d'un très haut niveau peuvent produire. Au final, ça donne une forme de résultat absolument confondant. Parce que derrière cette simplicité apparente, on sent quelque chose de très profond et de très intense. Et je crois que du coup, cette œuvre a besoin de ça pour paraître dans toute sa splendeur.
Il y a un autre compositeur allemand, bien sûr, au programme de ce concert, c'est Heinrich Schütz. Alors, il faut rappeler que c'est un compositeur avant Buxtehude très important. Buxtehude étant coincé entre Schütz et Bach, d'une certaine manière.
Absolument. Schütz, on dit que c'est le père de la musique allemande. Schütz, ça veut dire le Sagittaire en allemand. Il Sagittarius en latin, et c'est un surnom qui a fait le tour de l'Europe, parce que Schütz a été formé en Italie, puis il a été actif en Allemagne, mais il a eu une renommée vraiment, on peut dire, européenne dès le XVIIe siècle. Et moi, j'ai choisi pour ce concert-là de mettre en parallèle des sept plaies du Christ de Buxtehude, les Membra Jesu Nostri. J'ai choisi ces sept paroles, les sept dernières paroles du Christ en croix de Schütz, comme un petit oratorio, relativement court, parce qu'il fait que 15 minutes, mais qui décrit cet épisode de la passion du Christ, et notamment ces sept dernières paroles adressées au monde. Et donc c'est une œuvre très, là aussi très puissante, assez mystique. Et bien sûr, quand on dit intense et mystique, voilà, je redis que c'est aussi quelque chose qui entre tout à fait en relation avec ce lieu de Rocamadour, parce que je dirais que c'est les deux adjectifs qui me viennent quand je parle de ce lieu.
Il était logique aussi de mettre ces deux compositeurs en miroir au-delà des deux œuvres concernées. Vous venez d'expliquer pourquoi. Parce que tous les deux ont une importance bien particulière dans l'histoire, non seulement du baroque allemand, mais l'histoire de la musique allemande en général.
Oui, c'est vraiment les deux piliers de la musique avant Bach. C'est deux compositeurs qui ont nourri le cerveau et les oreilles de Jean-Sébastien Bach. Donc lui les connaissait, les a recopiés. Ce sont vraiment, je pense, des matrices pour l'œuvre de Bach ensuite. Voilà, quand on aime la musique de Jean-Sébastien Bach, je trouve que c'est passionnant, comme moi je l'ai beaucoup fait avec Charpentier, mais c'est toujours passionnant de savoir comment ces créateurs-là ont réussi à produire tant d'imagination, tant d'invention, pour finalement se créer un style totalement nouveau. Et je crois que quand on aime Bach, c'est passionnant de suivre ces processus de gestation des créations, et Fugue et Buxtehude sont vraiment deux modèles pour lui.
Oui, c'est important, je pense, de rappeler que si la musique part beaucoup de Jean-Sébastien Bach, il y a eu une musique qui a mené à Jean-Sébastien Bach, et Schütz et Buxtehude en font partie de cette filiation. Voici un autre extrait du cycle de cantates Membra Jesu Nostri ad Latus Surge, la quatrième des sept cantates, toujours dans la version enregistrée par l'ensemble Correspondance, parue en 2021 sous le label Harmonia Mundi. Ad Latus Surge, quatrième des sept cantates du cycle Membra Jesu Nostri, composée par Dietrich Buxtehude, extrait du CD enregistré par l'ensemble Correspondance en 2021. Et en parlant de CD et d'enregistrement, pour terminer, est-ce qu'il y en a un qui vient de paraître ou qui devrait paraître prochainement pour l'ensemble Correspondance?
Alors, il y en a un qui va paraître dans quelques jours, et puisqu'on parle de Charpentier, c'est à nouveau un disque Charpentier, mais le dernier c'était Psyché de Matthew Locke. C'était un opéra inédit anglais du XVIIe siècle, une petite rareté, une merveille absolue de la musique d'avant Purcell. Et puis celui qui va sortir là dans quelques jours, c'est une œuvre assez connue, parce que c'est probablement l'une des plus connues de Charpentier, c'est sa messe de minuit, et c'est une œuvre qu'on n'avait encore jamais jouée. Donc voilà, je suis très content que voilà, on joue aussi parfois, de temps en temps, une œuvre un petit peu célèbre. Et celle-ci est vraiment magnifique dans le sens où elle a la combinaison parfaite entre des mélodies populaires et de la musique savante. Je trouve qu'il y a quelque chose de très touchant dans cette musique de Noël. Et puis j'y ai adjoint de la musique, pour le coup, beaucoup moins connue, qui sont des histoires sacrées de Charpentier aussi, avec de la musique vraiment de tout premier plan.
Et c'est toujours sous le label Harmonia Mundi.
Absolument.
Eh bien, merci infiniment, Sébastien Dossé. Je rappelle que vous êtes en concert ce soir à 21h à la Basilique Saint-Sauveur de Rocamadour avec l'ensemble Correspondance. Le programme est intitulé Membra Jesu Nostri et il est composé d'œuvres de Buxtehude et Schütz. Il reste encore quelques places. La billetterie est en ligne à l'adresse www.rocamadourfestival.com. Merci d'être fidèle à notre écoute chaque début d'après-midi pour ces rendez-vous avec les musiciens invités au Festival de Rocamadour. Excellent après-midi à tous sur Radio Présence.